Bien, mais je vais recommencer donc l'après-midi. J'ai le délicat privilège de commencer l'après-midi après un repas du Nouvel An chinois. Ce que je voulais vous montrer, c'est un travail qui est réalisé par une équipe de recherche de l'INRP, Exprime, donc expérimenter des problèmes de recherche innovants. Ça, c'est parce que le I, on n'avait pas trouvé grand-chose d'autre en mathématiques à l'école. Voilà. Alors, le plan sur lequel je vais faire, ben, je vais vous donner déjà le contexte et les questions initiales, pourquoi on a créé cette ressource, et les hypothèses qui sous-tendent la création de la ressource, accompagnée des cadres théoriques, et puis arriver sur la construction effective de cette ressource, et pour terminer par une petite visite guidée, c'est-à-dire vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Alors, d'abord le contexte et les questions initiales. Eh bien, le contexte, c'est les problèmes de recherche, notamment à l'IREM de Lyon, puisque l'IREM de Lyon est partenaire de ce travail. Il y a eu tout un travail qui a été fait autour de l'introduction dans les classes de problèmes de recherche et de problèmes ouverts. Et la référence classique qui était donnée à l'origine, notamment par Gilbert Arsac quand il avait écrit le livre Problème ouvert et situation problème, c'était de reproduire dans la classe le travail du chercheur en mathématiques. Alors, une des conséquences, et puis on verra qu'il y en a d'autres, et que c'est un petit peu le point de départ de notre travail, les conséquences, c'est que l'accent a souvent été mis sur le développement de compétences extérieures aux mathématiques, méta-mathématiques, qui sont plutôt l'apprentissage d'une démarche scientifique, qui sont le développement d'heuristiques, qui sont la mobilisation d'outils de validation ou de contrôle à l'intérieur de la mise en situation de problèmes de recherche à l'intérieur de la classe. Et donc nécessairement, il y a une transposition, puisque l'image, la référence, c'est l'image du problème cherché par un chercheur en mathématiques. Et la transposition, notamment, mais il n'y a pas que ça, mais elle porte sur le temps. Le temps didactique qui n'est pas du tout le même que le temps pour le chercheur. Et puis l'enjeu également, puisque pour un problème de recherche, un problème ouvert, un problème est ouvert à un certain niveau de connaissances. Et le problème est ouvert en mathématiques quand bien les connaissances mathématiques actuelles ne permettent pas de donner des résultats qui amène à la solution. Et pour un élève, le problème est ouvert parce que ses connaissances à lui ne lui permettent pas directement de trouver le résultat. Il sera amené à trouver le résultat, mais en même temps, il a en face de lui un professeur dont il sait très bien qu'il a lui la réponse à ce problème. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre la situation du chercheur et puis la situation de l'élève en tant que chercheur de problème ouvert. Alors de la même façon, on s'est intéressé à la littérature qu'il y avait autour des problèmes ouverts et plus généralement des problèmes de recherche. Alors, je ne vais pas détailler tous les types de problèmes de recherche qui sont mis en place dans les classes, mais on s'aperçoit que les publications à ce propos sont assez nombreuses. Elles montrent toutes que ben, c'est bien, ça se passe bien dans les classes. Il y a un succès de ces publications. Alors, à tel point même que Arsac avait publié en 1989, je crois, la première version Problème ouvert et situation problème, que cette version était épuisée, mais qu'elle était toujours demandée. Et donc, du coup, Michel Mante et Gilbert Arsac ont réécrit la pratique du problème ouvert, donc qui est paru il y a quelques mois, et qui reprend le livre Problème ouvert et situation problème en l'augmentant de toutes les pratiques qui ont pu avoir autour du problème ouvert. Donc il y a un intérêt des enseignants, il y a un succès des publications qui sont beaucoup lues, demandées, mais en même temps il y a un décalage avec ce qui se passe en réalité dans la classe. Et en particulier, un des aspects qui est souvent cité, c'est que mettre en place un problème de recherche dans la classe, c'est pas si facile que ça, et que ça demande un travail très particulier qu'il faut mettre en place. Alors, les questions qu'on s'était posées au départ, avec l'hypothèse sous-jacente, c'est que c'est intéressant de travailler des problèmes de recherche dans la classe de mathématiques. Eh bien, les questions qui étaient posées, c'est quels sont exactement les freins à cette diffusion des problèmes de recherche dans la classe. Et puis, les questions qui viennent assez naturellement derrière, c'est comment aider les enseignants à utiliser des problèmes, puisqu'on a vu qu'il y avait une difficulté de mise en œuvre des problèmes de recherche dans la classe. Et puis, pourquoi faire? Et puis, la dernière question, puisqu'on en arrive à la construction d'une ressource, c'est en quoi une ressource peut permettre, dans des conditions de formation. Alors là, on se pose aussi la question formation et formation en autonomie. Donc, à partir du moment où les enseignants seront en face de la ressource, mais pas en face d'un formateur. Donc, en quoi cette ressource peut permettre d'intégrer dans l'enseignement des mathématiques, à un certain niveau, l'étude des problèmes de recherche dans la classe. Donc, ce sont les questions, le contexte et les questions initiales qu'on se posait quand on a commencé à travailler sur la création de cette ressource. Alors, on part aussi également de quatre hypothèses fondamentales, et c'est sur ces hypothèses que va se construire la ressource. Parmi les freins au développement des problèmes de recherche en maths, nous pensons qu'il y a une part expérimentale des mathématiques dans la recherche de problèmes en mathématiques d'une façon générale et en classe en particulier, et que cette part importante de la dimension expérimentale rentre en conflit avec la représentation qu'ont les enseignants de ce que sont les mathématiques, et peut-être même au-delà des enseignants, de ce que dans la société, ce que représentent les mathématiques. La deuxième hypothèse qui est aussi fondamentale dans les travaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'accent est mis principalement, quand on parle de problèmes recherche dans la classe, sur des compétences transversales, sur des compétences métamathématiques, sur le développement d'une démarche scientifique, sur le développement d'heuristique. Mais il parle assez peu des apprentissages sur les notions mathématiques qui sont en jeu dans la situation que les élèves sont en train d'étudier. Et donc, du coup, ça rentre en conflit et en opposition avec les contraintes institutionnelles des enseignants dans la classe de finir le programme, d'aller jusqu'au bout. Très souvent, quand on parle de problèmes de recherche, on entend de la part des enseignants, oui, c'est intéressant, je mettrai bien ça en place dans la classe, mais comment je vais faire pour regagner le temps que je vais avoir perdu? Et donc, une des questions, des hypothèses fortes sur lesquelles on s'appuie, c'est de montrer qu'à travers les situations mathématiques de recherche mises en place dans la classe, eh bien, on travaille aussi des objets mathématiques qui sont à un niveau donné dans les programmes de mathématiques. La troisième hypothèse, c'est la difficulté de repérer ce qui relève des mathématiques. Quand un élève est en train de chercher un problème, eh bien, il va passer par des procédures qui parfois sont pas en ligne droite par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de ce qu'on pourrait faire pour arriver à la solution. Et il y a un décalage entre l'activité de l'élève et l'activité souhaitée, pensée par les enseignants, et d'essayer de repérer ce qui est effectivement mathématique dans les démarches des élèves, et tout ça avec l'idée derrière que une fois que le problème de recherche va être fait dans la classe, va être mis en place dans la classe, il va y avoir un besoin d'institutionnalisation. Alors sur quoi institutionnaliser? Quels sont les éléments que les enseignants vont pouvoir institutionnaliser à l'issue de ce travail? Et puis la dernière hypothèse, et non des moindres, c'est que il y a une difficulté énorme à évaluer ce type de travail parce que les modes d'évaluation habituels, eh bien, ne fonctionnent pas quand on travaille dans un problème de recherche. Alors, l'étude qu'on a fait, c'est en fait une étude à deux niveaux, puisque on va travailler sur la ressource et donc les problèmes qu'on va proposer au sein de la ressource. Et puis dans un deuxième temps, on va essayer de travailler à l'usage de la ressource, c'est-à-dire comment les enseignants peuvent s'emparer de cette ressource en, en lien avec les hypothèses et les questions que je viens de citer. Alors, on s'appuie évidemment très fortement sur la théorie des situations, et là encore, je vais montrer qu'on on la regarde de deux points de vue, c'est-à-dire on utilise cette théorie à deux niveaux. D'abord, pour l'analyse des contenus, et on essaye de travailler sur des situations à partir de la situation mathématique pour aller à la situation didactique, à partir d'une situation. Alors la question est encore pour nous pas complètement tranchée. Va-t-on parler à partir d'un problème mathématique ou à partir d'une situation mathématique pour aller vers une situation de classe, une situation didactique? Et puis l'autre aspect d'utilisation de la théorie des situations, c'est pour analyser les usages, mais cette fois-ci au niveau d'un enseignant qui va prendre qui va utiliser cette ressource pour mettre en place des problèmes de recherche dans la classe. Eh bien, la ressource va être un élément du milieu dans une situation de construction de séquences de classe. Et puis le deuxième aspect, puisqu'il s'agit d'une ressource, et que je disais tout à l'heure qu'on avait une volonté de rendre cette ressource autonome, c'est-à-dire de permettre à des enseignants de s'en emparer et de pouvoir l'utiliser à l'extérieur de la classe, eh bien c'est évidemment le cadre de l'ergonomie qui à ce moment-là va nous servir à essayer de réfléchir et de penser cette ressource, et notamment en essayant d'analyser le travail, les connaissances personnelles. Donc là, je reprends les termes de l'ergonomie, les connaissances pertinentes pour l'aménagement ergonomique d'une situation de travail, et puis essayer d'analyser la tâche, c'est-à-dire la tâche prescrite, c'est-à-dire ce que l'enseignant doit être amené à faire pour préparer une séquence de classe, et puis la tâche effective, ce qu'il fait réellement à partir du moment où il va préparer cette séquence de classe, pardon. Et puis dernière chose, essayer d'analyser l'activité réelle, c'est-à-dire la mise en œuvre de cette préparation à l'intérieur une fois la ressource est étudiée. De la même façon, en lien avec la dimension expérimentale des problèmes de recherche, qui est très très forte à l'intérieur de nos hypothèses de départ, eh bien il y a le rôle et la place des objets mathématiques, et on va voir que dans la ressource, une des entrées possibles, ce sera de rentrer par des objets mathématiques et non pas par les situations mathématiques. Et puis le rôle et la place de l'expérimental. Donc qu'est-ce que c'est que faire une expérience en mathématiques? On rentre là encore un peu en conflit avec l'idée qu'il peut y avoir en général des mathématiques hypothético-déductives, mais ici on est dans une situation où l'expérience va permettre de manipuler des objets mathématiques de façon à faire apparaître des propriétés qui pourront être généralisées pour créer de nouveaux objets répondant à une question. Alors, la construction de ressources, ben, comme je le dis, me semble-t-il, depuis le départ, elle est construite autour de la notion de problème, et on reprend un certain nombre des caractéristiques des problèmes qu'on voudra arriver à mettre en place. Et alors, je dis un petit peu à l'avance, mais on ne cherche pas, à travers les problèmes qu'on va mettre en place, l'originalité des problèmes. On cherche plutôt, au contraire, des problèmes qui sont résistants, qui sont solides, sur lesquels on peut avoir déjà une certaine littérature, c'est-à-dire qu'ils ont été testés en classe. Toutes les situations sont des situations qui ont été testées en classe et qui permettent de voir sur quelles variables on peut appuyer pour pouvoir changer et travailler sur tel ou tel objet. Le problème est consistant, donc c'est pas une simple application du cours. Il existe des stratégies de résolution de base, c'est-à-dire que les élèves sont capables de rentrer dans la recherche du problème, même si ces stratégies et si les connaissances à un moment donné ne sont pas forcément suffisantes pour arriver à résoudre complètement le problème, mais au moins il y a des stratégies dans lesquelles les élèves peuvent rentrer. Et au contraire des situations problèmes, on essaye au contraire de prendre des situations dans lesquelles il y a plusieurs stratégies de résolution mettant en jeu des connaissances variées. Et puis, dernier aspect, non des moindres, il existe à l'intérieur de la situation des éléments de rétroaction pour la validation. Le cœur du travail, c'est donc une organisation des classes qui sont liées à la situation mathématique en jouant sur les variables didactiques. Et puis par ailleurs, il y a une volonté de diffusion de cette ressource, c'est-à-dire qu'on veut qu'elle puisse être à disposition des enseignants et qu'ils puissent s'en servir, donc sur CD-ROM ou sur Internet, mais au moins qu'il y ait une diffusion assez large. Que ce soit une ressource qui soit évolutive, c'est-à-dire qu'elle est prévue pour s'enrichir, c'est-à-dire qu'il y a pour le moment un certain travail qui est fait, que je vais parcourir d'ici quelques instants, et puis ce travail il est déjà prévu pour s'enrichir et on commence déjà à travailler sur d'autres situations. Et puis enfin, et ça aussi c'est quelque chose qui est important, c'est une ressource qui est libre et qui est construite avec des outils libres. Et ben voilà, donc j'arrive à la visite de guidé, donc voilà la ressource. Voilà. Vous voyez peut-être pas grand-chose là, mais donc c'est une espèce d'hydre assez gigantesque. Alors je vais quand même commenter un petit peu cette hydre, et puis on va retrouver à l'intérieur de la ressource la structure qui est représentée ici sur ce schéma d'arbre. Donc on arrive ici sur une présentation générale, donc à l'entrée de la ressource, et il y a une branche qui va vers les références théoriques, ce sur quoi on s'appuie pour la construire, et puis sur la dimension expérimentale des mathématiques. Et puis par ailleurs, vous voyez ici, il y a des sous-arbres sur lesquels je vais pouvoir cliquer. Voilà. Et ces sous-arbres sont tous construits de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une situation mathématique. De cette situation mathématique, on va pouvoir en déduire on déduit rien. On va faire une analyse mathématique, et on a essayé à chaque fois de travailler d'une façon très fine et très profonde sur l'analyse mathématique des situations. Et on travaille en lien avec des mathématiciens de Lyon 1 qui à chaque fois nous permettent d'avoir une analyse excessivement précise, et qui va même sur au-delà de ce qui pourrait se passer en classe. Pratiquement toutes les situations mathématiques qu'on a proposées jusqu'à présent débouchent sur des problèmes ouverts en mathématiques. Donc là, cette fois-ci, problème ouvert, mais au sens des mathématiciens, c'est-à-dire qu'il y a encore des parties de cette situation qui sont mal connues. Il y a pour chacune des situations des situations d'apprentissage, donc avec un S bien sûr, et ces situations d'apprentissage, on essaye de les décrire en donnant les énoncés des problèmes, en donnant les scénarios et en donnant les variables sur lesquelles on peut appuyer pour transformer cette situation d'une façon ou d'une autre en fonction de volonté didactique. L'autre aspect, c'est un aspect qui pour nous est très important, ce sont les objets mathématiques potentiellement travaillés à l'intérieur de cette situation. C'est-à-dire qu'on essaye de regarder, et là on a essayé de regarder niveau par niveau, c'est-à-dire que pour la plupart des situations, on peut arriver à les poser depuis le collège jusqu'à l'université, et on essaye de regarder niveau par niveau ce que ça met en jeu comme notion mathématique et comme objet mathématique sur lequel on pourra éventuellement institutionnaliser un certain nombre de connaissances. Et puis bien sûr, il y a des références, puisque je vous l'ai dit, on ne vise pas l'originalité à travers ces problèmes. Donc ça veut dire que ce sont des problèmes qui ont déjà été qu'on a déjà rencontré dans la littérature, et on donne un peu toutes les références pour lesquelles ces problèmes existent. Et puis dernier aspect, C'est ce qu'on appelle pour l'instant une synthèse, mais qui va certainement changer de nom parce que synthèse, ça nous plaît pas bien. Mais c'est une partie qui va permettre à un professeur de rentrer dans cette situation et d'avoir un résumé suffisamment consistant pour pouvoir travailler sur l'objet sur lequel on travaille, mais suffisamment court pour pouvoir y rentrer assez facilement. Donc là, le suffisamment long et suffisamment consistant et le suffisamment court, vous voyez, est encore très très difficile à mettre en œuvre. Donc à chaque fois qu'on discute, et on en a encore rediscuté lundi, on a des discussions très très épiques parce qu'on dit ah oui, mais ça c'est vraiment important, il faut le mettre dans la synthèse. Et puis oui, mais d'accord, mais bien sûr c'est important, mais si on met ça, on aura une synthèse qui va faire 53 pages, ce qui ne va pas être quelque chose de suffisamment court pour pouvoir être abordé directement par un enseignant qui veut voir et qui veut mettre en place dans la classe. Voilà. Donc vous voyez que cette ressource, chacune des ressources va être construite sur cette structure particulière. Donc on a une structure un peu fractale. Voilà. Alors nous y voilà. Donc on change de couleur et donc on rentre dans la ressource. Donc on retrouve ici dans le menu général eh bien ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a trois entrées, l'entrée dimension expérimentale en mathématiques, et sur cette entrée eh bien on a des documents généraux et on s'appuie évidemment sur des études qui ont été faites, notamment l'étude qui avait été faite pour EducMath par Gérard Kunz autour de la dimension expérimentale des problèmes de recherche. Et puis d'autres textes théoriques et puis des présentations qui ont été faites du travail dans différents lieux. L'esprit des documents la présentation, alors ça c'est quelque chose d'intéressant. On se posait la question de savoir si ça valait le coup de mettre l'esprit des documents à l'intérieur, si c'était pas plutôt une question interne et qui nous regardait nous et qui éventuellement pouvait regarder des chercheurs qui pouvaient s'intéresser à cette ressource, mais pas forcément les enseignants qui veulent s'en emparer pour travailler dans la classe. Et l'expérience, bon, puisque maintenant la ressource est arrivée à un état suffisamment abouti, bien que non terminé encore, mais suffisamment abouti pour pouvoir être testé avec avec des vrais enseignants. Donc on l'a fait et on a essayé de regarder. On s'aperçoit que quand on connaît pas, la première chose souvent pour beaucoup, en tout cas dans les tests qu'on a pu faire, pour beaucoup, c'est on va voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire quel est l'esprit des documents, quelle présentation générale on nous propose. Alors je ne vais pas la parcourir moi ici, puisque j'en aurai pas vraiment le temps et j'aurai plus envie de passer sur les situations mathématiques et de faire un petit parcours à l'intérieur de ces situations mathématiques. Alors pour l'instant, eh bien on en est à cet état, c'est-à-dire que on a 7 situations mathématiques, une par jour de la semaine, donc ça nous permet d'avancer. Alors je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est évolutif, donc ces 7-là sont relativement aboutis, en ce sens que pour chacune d'elles, il y a eu des expérimentations et il y a eu des observations, et donc on sait ce qu'il en retourne dans des vraies classes, avec des vrais élèves, comment ça peut se passer, et on essaie d'analyser à partir de ces objets-là. Alors, je vais montrer au fur et à mesure, d'abord comment chacune des situations est construite, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on peut y trouver, et puis voilà. Donc je commence par la première qui historiquement était aussi la plus ancienne, donc aussi une de celles qui a été achevée les plus, ça fait le plus longtemps, quoi. Et ce sont les fractions égyptiennes. Et alors donc vous voyez, quand on clique, je reviens derrière ici, on est situation les fractions égyptiennes, donc on clique, on arrive à une page qui donne cette situation a été expérimentée dans les classes du secondaire, de la quatrième à la terminale, mais avec des groupes et aussi avec des groupes d'étudiants de tout niveau. Donc ça permet d'avoir juste cette phrase qui permet de dire pour un prof, ben, moi, je cherche une situation pour faire ça avec ma classe classe de 6e, bah, peut-être celle-là, en tout cas, ça n'a pas été expérimenté comme ça. Peut-être elle sera utilisable, mais il faut, elle n'a pas encore été expérimentée. Et puis, une toute petite précision sur le temps, bah, il est nécessaire pour arriver à quelque chose d'à peu près abouti, d'avoir au moins 2 heures pour travailler. Et puis ensuite, on rentre dans la situation en détail. Et donc, cette situation en détail, on retrouve mon sous-arbre de tout à l'heure. Donc, il y a la situation mathématique, les objets mathématiques potentiellement travaillés, la situation d'apprentissage, les références, la fameuse synthèse, et puis les situations connexes, c'est-à-dire de cette situation de mathématiques, où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et est-ce qu'on pourrait pas aussi, pour des élèves, à un niveau donné, inventer des nouvelles situations didactiques qui partiraient de cette situation mathématique. Alors, il y a une forte distinction qu'on fait entre situation mathématique et puis le problème qui va être posé aux élèves. Donc, la situation mathématique, c'est vraiment, le problème qui peut se poser à un mathématicien, c'est ça, c'est décomposer l'unité en somme de fractions de numérateur 1. Bon, maintenant, c'est la décomposition de l'unité en somme de fractions, et puis c'est tout. Alors, là-dedans, on essaye de faire une analyse mathématique, ce que je vous disais tout à l'heure, le plus fin possible, c'est-à-dire essayer de voir toutes les démonstrations qui peut y avoir. Donc, quand on en a qu'une à notre disposition, ben on n'en donne qu'une, mais on essaye de, chaque fois qu'on en a une, d'en chercher une autre, d'essayer de voir. Alors ça, c'est vraiment complètement fondamental pour nous, parce que en fait, on s'aperçoit qu'en faisant cette analyse mathématique très fine, eh bien on arrive à voir des objets qui pourraient être travaillés et sur lesquels on pourrait faire varier l'énoncé de la situation didactique, de la situation du problème donné aux élèves, pour pouvoir travailler plus particulièrement l'un ou l'autre de ces objets mathématiques. Alors par exemple, ici, on a pour existe-t-il deux entiers distincts non nuls tels que 1 sur A plus 1 sur B est égal à 1, ben on a des réponses utilisant l'arithmétique, ou bien utilisant les inégalités, ou bien utilisant la représentation graphique des hyperboles. Et on revient. À chaque fois, vous voyez, je détaille pas ces problèmes, mais c'est construit de cette manière-là. Ça veut dire qu'en gros, c'est en lisant ça, on se dit, ah bah oui, tiens, cette situation, bah, peut-être je peux la lier à la notion de fonction, parce que effectivement, il y a cette notion de fonction, et la fonction x donne 1 sur x est pas loin des fractions égyptiennes. Alors, les objets mathématiques potentiellement travaillés, ben là on a essayé de voir sur tous les programmes du collège et du lycée ce qui pourrait être en relation avec la situation à partir de l'analyse mathématique. Alors, ce qui n'est pas en fait encore, mais qui est en chantier, c'est d'avoir aussi directement une entrée par les objets. C'est-à-dire que si on se dit je voudrais travailler le calcul algébrique, ou bien la somme de deux fractions, pour être plus précis, si je veux travailler la somme de deux fractions, est-ce que dans cette ressource il y a une situation qui pourrait se rattacher à cette chose-là? Donc là, c'est, je peux pas vous le présenter encore parce que c'est en chantier. Donc j'en étais au programme, voilà. Donc le lien qu'il peut y avoir entre le programme et les objets travaillés. Là, vous voyez, c'est pas encore complètement achevé, puisque il y a des résultats objets travaillés 1/2 plus 1/4 plus 1/4 égale 1 point d'interrogation. Alors d'où ça vient? Ben ça vient qu'à un moment donné, dans des observations, on s'est aperçu qu'il y avait un problème qui se posait pour les élèves, et notamment pour les élèves qui utilisaient des calculatrices, c'est-à-dire qu'ils arrivaient avec leur calculatrice à trouver que 1/2 plus 1/4 plus 1/4 c'était égal à 1, et la calculatrice affichait effectivement égal 1, et puis 1/2 plus 1/3 plus 1/6, est-ce que c'est égal à 1? Eh bien la calculatrice, là, pour certaines calculatrices, maintenant de plus en plus, elle triche, si j'ose dire, puisque les calculatrices numériques, normalement, devraient pas trouver un résultat exact, mais en trichant, elle donne le résultat exact, mais certaines calculatrices encore donnent un 0,9, etc., qui peut faire question, qui peut faire débat à l'intérieur de la classe, savoir si 1/2 plus 1/3 plus 1/6, est-ce que c'est vraiment égal à 1 ou est-ce que c'est pas égal à 1. Bon. Bon, je ne vais pas détailler l'ensemble des programmes de sixième jusqu'à terminale, mais on essaie de faire toute cette analyse et de regarder les relations qu'il peut y avoir de l'un à l'autre. Alors, situation d'apprentissage, alors c'est ce que je ne fais que répéter ce que je disais tout à l'heure, mais au moins là on le voit, je disais pas des mensonges. On a effectivement des énoncés, un ou des énoncés, là aussi ça dépend des situations, et des scénarios, et des comptes rendus. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre à l'intérieur de la ressource, la possibilité de regarder ce qui s'est effectivement passé dans certaines classes. Alors, je regarde les comptes rendus, donc je prends la classe de première S parce que Didier est là. Hein, donc c'était dans la classe de Didier qui avait eu cette observation. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder groupe par groupe, puisque ça avait été observé, et donc dans les groupes, eh bien on a l'affiche que les élèves avaient produit, hein, et puis donc là on peut s'en rester ici, ça serait une analyse qui serait à peu près celle du professeur dans la classe, puisque à partir du moment où les élèves ont travaillé en groupe, ce qu'il va récupérer, c'est uniquement le résultat du travail des élèves, c'est-à-dire l'affiche qui a été produite, en l'occurrence ici le transparent qui avait été produit. Mais on peut essayer aussi d'aller plus loin et de regarder donc tout ce qui s'est dit et quels sont les objets sur lesquels les élèves avaient travaillé, et faire apparaître bien toutes les difficultés qu'il peut y avoir à travailler sur ce problème. Notamment, par exemple, dans cette classe, on s'était aperçu que des élèves qui expérimentaient en utilisant des objets naturalisés pour eux, c'est-à-dire des objets arithmétiques, étaient plus performants à trouver des solutions que les élèves qui rentraient directement dans une solution algébrique qui maîtrisait plus ou moins bien, parce que déjà avec deux fractions, 1 sur A plus 1 sur B égale 1, bah, il y a deux paramètres, et c'est pas simple pour des élèves de première S, c'était en début de première S, donc des grands secondes si vous voulez, d'arriver à se dépatouiller avec deux paramètres. Et il y avait un dialogue, je sais plus, bon c'est quelque part, hein, j'aurais de... un peu long à le retrouver certainement, mais qui était intéressant, où des élèves disaient, bah oui, finalement, 1 sur A plus 1 sur B égale 1, ça voudrait dire que AB est égal à A plus B, ça voudrait dire que AB sur A plus B égale 1, ça voudrait dire que moins AB sur A plus B égale moins 1, et puis il y en a un qui au bout d'un temps, qui dit, bah, oui, là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, ça va pas bien, on va pas arriver bien loin de cette façon-là. Alors que d'autres, qui étaient partis sur des idées beaucoup plus a priori élémentaires, c'est-à-dire manipuler des exemples, prendre des fractions, prendre des vraies fractions, les additionner et puis tester, et ben t'es arrivé à voir que s'il prenait un demi, ben il restait encore un demi derrière, et que ben ça sera dur avec une seule fraction de remplir ce un demi qui restait. Voilà. Bon, je passe. Là, vous voyez, par exemple, au niveau ergonomique, il y a quelque chose qui est très mal. C'est que je ne peux pas retourner à mon menu directement. Donc, il faudra donner aux auteurs dire que c'est pas terrible. Voilà. Alors, bon, on a essayé de le faire avec plusieurs dans plusieurs classes, justement pour essayer de montrer ce qui était travaillé au niveau mathématique à l'intérieur de différentes classes. Et puis, bon, comme on a l'avantage de travailler aussi avec des collègues qui sont en formation dans les IUFM, et bien aussi de travailler à un niveau de formation avec des professeurs enfin des étudiants qui préparent le concours de prof d'école. Voilà. Donc ma situation en détail. Alors les références, ben, je ne vais pas passer dessus. La synthèse, ben, je vous en ai parlé, avec toutes les difficultés qu'il y a à la construire. Alors pour le moment, on est en train d'essayer de faire un plan le plus fin possible pour arriver à rester à l'intérieur de ce plan et faire en sorte que ce soit utilisable. Alors ça, c'est quelque chose qui sera à mettre en à l'essai et observer, voir si effectivement des enseignants qui veulent préparer une séquence de cours avec des problèmes de recherche peuvent s'emparer de la situation avec ce qu'on a prévu comme comme synthèse. Et puis ici, juste pour voir, eh bien des situations connexes. Donc sur les pavages semi-archimédiens, eh bien oui, cette situation des fractions égyptiennes débouche sur les pavages semi-archimédiens et donc une classification des pavages semi-archimédiens, et puis aussi sur les nombres semi-parfaits, et donc ça débouche sur des problèmes ouverts. C'est là j'en parlais tout à l'heure, sur un problème ouvert en mathématiques, c'est-à-dire à savoir le nombre de décompositions de 1 en n fractions, n étant un nombre général. Ben ça, c'est un problème général qui est ouvert en maths, et ça se comprend relativement parce que ça dépend de la décomposition de n en produit de facteurs premiers, et donc il y a les nombres premiers qui sont là-bas dessous, et comme on sait bien que ils sont difficilement préhensibles, eh bien on a des problèmes. Donc on a travaillé par exemple avec la base de données Sloan en ligne, qui nous permet de regarder à partir du moment où on a les premiers termes d'une suite, est-ce que cette suite de nombres naturels, est-ce que cette suite est déjà répertoriée, est-ce qu'elle fait référence à des travaux mathématiques. Et donc on s'est aperçu que la suite était déjà répertoriée et qu'elle débouchait sur des points d'interrogation. Voilà. J'ai encore un petit moment. Je ne sais plus. 10 minutes. Donc 10 minutes, alors je veux passer sur des petites choses. Voilà. Le problème de la rivière, qui est un problème extrêmement classique que vous devez connaître, on va aller voir directement la situation mathématique. Donc trouver M pour que le trajet de A à B en passant par la rivière soit le plus petit possible. Donc on a essayé de regarder, alors on a travaillé, parce qu'en plus on a travaillé aussi dans Ecolab autour de cette situation, puisque on avait testé avec des élèves qui utilisaient la calculatrice TI-Inspire, donc qui avaient la possibilité aussi bien de faire du calcul, de la représentation géométrique, etc. Et donc on a essayé de regarder très 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 à fond toutes les solutions possibles. Bon, je vais pas revenir sur ces situations. Je vous montrerai demain, mais alors dans le cadre d'Ecolab, comment une ressource peut évoluer en fonction des observations. Mais ce que je voulais montrer ici, c'était les situations connexes, c'est-à-dire que ce problème est excessivement classique quand on a une rivière qui est une droite. Ça devient moins classique si la rivière est un arc de cercle ou si la rivière est la représentation graphique d'une fonction dérivable. Alors on n'a pas encore été jusqu'à voir si la fonction est nulle part dérivable, ce qui risque d'être un petit peu plus complexe. Et puis l'autre aspect, et si la fonction, si la rivière était représentée sur une sphère, c'est-à-dire au lieu d'être dans le plan, c'est-à-dire si c'était une géodésique de la sphère, c'est-à-dire un grand cercle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Alors ce qu'on a essayé de faire ici, donc si la rivière est c'est de proposer la possibilité de faire des expériences. C'est-à-dire que on va pouvoir ouvrir si ça marche. On va pouvoir ouvrir une figure bouger les choses et puis essayer de regarder ce qui peut se passer. Et donc ici la solution qui est proposée, c'est une solution qui est analogue à celle du symétrique par rapport à la droite, mais cette fois-ci c'est le symétrique du point A par exemple par rapport à la tangente en M, et on essaie de regarder à quel moment eh bien il y a une ligne droite, et ici on peut arriver à une solution. Mais c'est pas la seule solution, et il y a géométriquement dans ce problème il y a trois solutions fondamentales, qui est une solution géométrique en passant par le symétrique, qui est une solution analytique en étudiant la fonction et en cherchant un minimum d'une fonction, et puis il y a une solution physique en regardant un rayon de lumière, hein, et donc en regardant l'angle d'incidence qui est égal à l'angle de réfraction. Je crois bien que c'est les collègues de Montpellier. Donc on a essayé de voir justement si cette situation était utilisable et si on pouvait le faire, c'est-à-dire si on avait un rayon de lumière, si on lançait un rayon de lumière à l'intérieur du cercle, est-ce qu'il est possible de résoudre ce problème. Et alors je pensais aux machines mathématiques dont Michaela nous a parlé ce matin, parce que ici effectivement on va utiliser une courbe qui est une courbe non admise dans la géométrie grecque, c'est-à-dire c'est pas ni une droite ni un cercle, mais on va faire une construction en utilisant une courbe particulière. Et alors là, il y a deux aspects. L'aspect d'expérimentation que je vous ai montré tout à l'heure, donc sur lequel je ne vais pas revenir. Et puis il y a un aspect, alors qui est ici, qui marche pas. Bon, eh bien tant pis. Il était prévu, et je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Il était prévu ici d'avoir la possibilité de visualiser et d'entendre la démonstration, d'entendre la construction. C'est-à-dire qu'il y a une interactivité. Quand la ressource marchera bien et qu'elle pourra être disponible à tout le monde, eh bien en cliquant sur l'image, on va visualiser cette construction avec les explications qui sont données en direct, en même temps, d'une façon sonore. Voilà. Bon, alors je vais passer à la suite puisque on ne veut pas me faire visualiser. Voilà. Alors on a toujours évidemment on essaye de donner évidemment toujours les. Alors là ça m'a troublé de ne pas pouvoir cliquer sur ce bouton et d'avoir ce que je voulais. Donc je ne sais plus exactement où je voulais aller maintenant. Donc je reviens au menu en général. Alors peut-être si voilà c'est montré. Alors j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. On l'a pas fait systématiquement pour toutes les situations, mais on va essayer de le développer le plus possible, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait d'abord une interaction avec les gens qui travaillent, c'est-à-dire qu'ils puissent effectivement directement sur la ressource tester et expérimenter ce qui est proposé à tester et à expérimenter, et puis aussi proposer des démonstrations mathématiques écrites et des démonstrations mathématiques orales, parlées, de façon à pouvoir arriver à ce résultat. Alors j'espère que ici ça devrait fonctionner. Je donne l'analyse mathématique.
Pourquoi ça ? Voilà. Supposons que le nombre de n se déroule
par 4. Bon, alors je vais arrêter là. L'idée étant qu'il y ait un texte et puis il y ait un sonore, enfin un discours qui soit un petit peu différent, pas exactement reprendre phrase à phrase ce qui est donné, mais un petit peu comme dans une idée de cours, j'écris au tableau A et B doivent être alignés, et puis j'explique que le vecteur AB est collinéaire avec tel autre vecteur, par exemple. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai été troublé par mon animation qui n'a pas voulu se lancer, donc je boude et je m'arrête ici. Puis de toute façon, je pense que c'est à peu près l'heure qui était prévue. Donc je vous remercie.